Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Peut-on se passer de l'énergie russe, le gaz, le pétrole? Les Américains veulent couper le robinet, mais les Européens sont très partagés sur le sujet. Leur dépendance bien plus forte et les prix atteignent déjà des sommets. 14 centimes de plus pour le litre de gazole en une semaine. 12e jour de guerre en Ukraine. L'étau se resserre autour de Kiev. Nos envoyés spéciaux sont à Irpin, le dernier verrou avant la capitale. Le président Zelensky en appelle de son côté une nouvelle fois aux Occidentaux. Fermez le ciel, donnez-nous des avions de combat. Une guerre qui plane aussi sur la campagne présidentielle. Marine Le Pen tente de prendre ses distances avec ses anciennes positions pro-russes. Et Emmanuel Macron rejoue ce soir le grand débat à Poissy dans les Yvelines. Dans l'actualité encore, les réquisitions dans le procès Saint-Étienne du Rouvray, entre 7 et 14 ans de prison requis à l'encontre des 3 accusés dans le box. Et des dark stores qui poussent comme des champignons dans les centres-villes. Les élus commencent à réagir. Et au téléphone sonne Fabienne.
Vous l'avez dit, au milieu de ce chaos, il y a une campagne électorale qui officiellement commence avec ces 12 candidats qui sont bien là. Mais quelle campagne? Alors est-ce qu'on dit que ces 34 jours qui nous séparent du premier tour auront un sens ou pas du tout? Est-ce qu'au contraire, c'est une autre campagne qui, contrairement aux précédentes, aura un prisme international? Vos questions, vos réflexions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine sont déjà là. Le prix du blé, du titane, du nickel flambent à des niveaux jamais vus. Celui du gaz a doublé depuis le début de l'invasion russe. Quant au pétrole, la petite phrase du chef de la diplomatie américaine d'un possible embargo sur le pétrole russe n'a fait que rajouter de la panique aux bourses. Car on est déjà à des sommets qui se traduisent concrètement en France à la pompe. Hausse moyenne de 14 centimes le litre de gazole sur une semaine. Le prix dépasse souvent les 2 euros du litre, désormais, comme le montre le reportage à Tours de Jean Lebray.
2,68 €.
Et mieux vaut le prendre avec le sourire comme cet automobiliste, car dans certains cas, et c'est historique, le prix du diesel dépasse celui de l'essence. Ceux venus faire le plein dans cette station-service franchisée sont plutôt fatalistes, comme Serge et Grégory.
C'est bien triste quand même, parce qu'il y a certainement pas mal de personnes qui sont obligées de prendre la voiture. Et puis avec des budgets comme ça, eh ben, le budget essence, carburant est énorme maintenant.
Ça pique un peu, ouais. Ça pique un peu. Ben, on roule un peu moins, mais on s'habitue, on s'adapte. Pas le choix.
Il faut peut-être effectivement se pencher sur le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de taxes. Ça va continuer à monter de toute façon, tel que c'est parti là, puisque ben, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut y passer. Bon, ceux qui vont travailler pour le tourisme, pour plein de choses, ben, ça grève aussi le budget.
Plus heureux sont ceux qui travaillent et qui font le plein sans avoir à mettre la main à la poche.
C'est un énorme avantage aujourd'hui, même sur le salaire, du coup, d'avoir une voiture de fonction et donc une carte pour l'essence. C'est vrai que là... le plein, là, c'est un budget conséquent.
1,95 € en moyenne, le litre de diesel, c'est près de 60 centimes de plus par rapport à mars 2021.
Un reportage France Bleu Touraine. Peut-on, dans ces conditions, envisager un embargo sur le pétrole russe ou sur le gaz, 40% des importations européennes? La question est posée aujourd'hui à Bruxelles. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Mais c'est bien difficile de rapprocher les positions sur ce sujet.
Effectivement, parce que les 27 ne sont pas égaux du tout devant les hydrocarbures russes. C'est particulièrement le cas de l'Allemagne qui importe 55% de son gaz de Russie, 42% de son pétrole. Le ministre allemand de l'économie va même jusqu'à dire qu'un embargo menacerait la paix sociale en Allemagne. Pour le chancelier Olaf Scholz, ces importations sont essentielles pour toute l'Europe et il n'y a actuellement pas d'alternative. Alors, le ministre américain des Affaires étrangères, Anthony Blinken, avait en quelque sorte cherché à mettre les plus réticents en Europe devant une sorte de fait accompli en annonçant ces négociations transatlantique pour un embargo simultané. Les rumeurs à Washington selon lesquelles cet embargo pourrait être décidé seul par les États-Unis, ça aussi c'est une forme de pression, alors que de son côté le Canada a déjà interdit toute importation de pétrole brut. En réalité, les Européens se déchiraient déjà sur l'énergie depuis le mois de septembre. Leurs négociations de l'automne avaient clairement dessiné la carte d'une Europe divisée entre ceux qui ont encore du nucléaire et ceux dont la dépendance au gaz importé mine l'efficacité d'une politique énergétique commune européenne et rend donc très compliquée une négociation sur un embargo éventuel.
Et Pierre Benazé en direct de Bruxelles, il va sans doute falloir faire un effort sur notre consommation d'énergie, dit donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Baisser le chauffage d'un degré ou deux aurait un effet pour la patronne d'Engie qui était invitée ce matin de France Inter. Et puis aussi la question agricole, le blé, le tournesol, le sarrasin. L'Ukraine est l'un des greniers de l'Europe et elle décide de réduire ses exportations aujourd'hui. Des quotas ont été introduits pour le bétail, le sel, le sucre ou encore l'avoine.
Et au 12e jour des combats, l'armée russe progresse progresse sur tous les fronts.
Intense bombardement toujours à Kharkiv, la deuxième ville du pays, mais les Ukrainiens résistent, comme à Mariupol, la ville au bord de la mer d'Azov. Stratégique, là-bas, l'évacuation de 200 000 civils a échoué à plusieurs reprises ces dernières heures. Le président ukrainien craint maintenant que le feu russe ne s'abatte sur Odessa, le principal port du pays sur la mer Noire. Et puis à Kiev, la capitale, encore debout, mais toujours dans le viseur de l'armée russe. Gilles Gallinaro et Omar Waman sont sur place depuis plus d'une semaine et reviennent ce soir de la ville d'Irpin, banlieue dortoir de la capitale, 60 000 habitants, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Bonsoir Omar.
Bonsoir Hélène.
Irpin, c'est le dernier verrou avant Kiev. Et après deux jours d'intenses combats, il y a eu un semblant de trêve aujourd'hui.
Oui, on ne peut pas, Hélène, parler de cesser le feu à Irpin, mais de quelques dizaines de minutes de répit, quelques instants de silence en fin de matinée, un semblant effectivement de trêve interrompue par des bombardements sporadiques, une première depuis le début de la guerre et des frappes russes qui se sont intensifiées samedi. C'est un véritable déluge de feu qui s'est abattu sur cette petite ville à une vingtaine de kilomètres de la place Maïdan. Irpin jouxte littéralement la capitale, c'est le dernier verrou avant Kiev, d'où la violence des bombardements russes, d'où des combats extrêmement violents qui se déroulent dans la ville, ce qui a provoqué un exode de la population, des civils qui ont fui par milliers à pied car le pont qui relie Irpin à Kiev a été détruit par les forces ukrainiennes pour freiner la progression des blindés russes. Mais cela a évidemment compliqué l'évacuation des civils, parmi lesquels beaucoup d'enfants, de femmes, de vieillards, de blessés qui ont pu, après une longue marche, monter dans des bus scolaires jaunes pour être transportés vers le centre-ville de Kiev. La capitale qui se prépare effectivement au pire, à l'assaut des forces russes qui ont massé des milliers de soldats dans les faubourgs de la ville.
Omar Waman et Gilles Gallinaro en direct de Kiev, où les secours ukrainiens font aussi état du bombardement d'une boulangerie industrielle. Il y aurait au moins 13 morts, des femmes, des malades, des enfants tentent toujours de fuir, vous l'avez dit Omar, vers l'ouest du pays encore épargné et qui sert d'arrière-base. Il y a Lviv où l'ambassade de France s'est déplacée, où énormément de réfugiés transitent. Paris demande d'ailleurs ce soir encore à tous les Français de quitter le pays sans délai. Et puis un peu plus au sud, Ujhorod, à la frontière avec la Slovaquie, des trains arrivent bondés et repartent loin d'être à vide, témoigne cette habitante Lesia que Delphine Evenou a pu joindre.
Les trains à Ujhorod arrivent de tous les endroits de l'est, du centre, du sud de l'Ukraine pour évacuer des gens. Et donc, pour le retour, les trains sont vides. Disons, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour aller là-bas. Et comme ça, nous utilisons les trains pour envoyer d'aide pour nos soldats, disons pour la ligne zéro, plus pour les gens qui sont restés là-bas, pour les aider avec des médicaments, pour les enfants, pour les hôpitaux. Ça dépend de liste de commandes, mais c'est et les médicaments, le vêtement, les obstacles anti-char, les hérissons, comme on les appelle, les cocktails Molotov, tout. Voilà, il faut aider, il faut remplir, donc on aide.
Et les Ukrainiens de l'Ouest entièrement engagés dans l'effort de guerre, tandis que les pays voisins, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, recueillent l'effroi et le désarroi de ceux qui ont fui sous les bombes. 1 700 000 personnes depuis le début de l'invasion. En Pologne, au-delà des centres d'accueil, les hôtels sont eux aussi réquisitionnés et de fait plein à craquer de réfugiés ukrainiens en transit. Comme cette famille rencontrée dans un hôtel de Lublin par Agathe Mahué.
On ne peut pas la rater, la petite Annette, 1 an et 4 mois, parce que c'est ici, dans le hall de cet hôtel polonais, qu'elle a choisi de faire ses premiers pas. Sa maman, Ivana, aurait préféré vivre ça chez elle, en Ukraine. Au moins, elle est vivante et en bonne santé, mais son père lui manque. À chaque fois qu'elle se réveille, elle va à la fenêtre et elle crie « Papa, papa ». Son mari a été mobilisé comme réserviste. Avec lui, Ivana menait à 38 ans sa petite vie, comme elle dit, à Tchabani, tout près de Kiev, jusqu'à ce que les Russes s'en prennent à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors j'ai pensé, si elle explose, c'est la fin du monde. Et j'ai dit à mon mari, il faut qu'on parte.
Un oubli dans cet exode, le sac de jouets et de petits poneys, ce qui a beaucoup fait pleurer la grande sœur d'Annette. Marie, 5 ans et demi. Dans un coin de l'hôtel, des anonymes ont entassé quelques vêtements, des affaires pour les enfants, et l'accueil des Polonais touche au cœur, Ivana.
Cette guerre nous montre combien le fait de rester humain, c'est le plus grand trésor qui soit.
Ce soir encore, dans cet hôtel, 3 occupants sur 4 seront des réfugiés ukrainiens.
Au corridor humanitaire prévu, objet de nouvelles négociations aujourd'hui à la frontière avec la Biélorussie, les Ukrainiens notent de petits progrès, même si en l'état, Kiev n'en veut pas. Et pour cause, Moscou a proposé d'évacuer les réfugiés vers la Russie ou la Biélorussie. Le président français dénonce un cynisme moral et politique de Vladimir Poutine. La Russie a par ailleurs établi une liste de pays qu'elle considère comme hostiles, dont ceux de l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie. Et Moscou autorise les Russes qui auraient à rembourser des dettes avec ces pays à le faire en rouble, qui, je le rappelle, a perdu 45% de sa valeur depuis janvier dernier. Et nul ne doit s'y tromper, la Chine se positionne bien aux côtés de la Russie. L'amitié entre les deux pays est éternelle, rappelle aujourd'hui le ministre chinois des Affaires étrangères, résistante à toute épreuve, alors que la France et les États-Unis notamment appelaient Pékin à s'engager davantage dans un rôle de médiateur.
Guerre tragique aux conséquences profondes et multiples qui heurtent forcément la campagne présidentielle.
À 5 semaines du premier tour, plusieurs candidats sont rattrapés par leur position pro-russe. Marine Le Pen assume le tract où une photo l'affiche tout sourire serrant la main de Vladimir Poutine. Mais bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
La candidate RN se dissocie de l'image et des actes du président russe de plus en plus fortement.
Oui, sur Vladimir Poutine et la Russie, Marine Le Pen a entrepris un virage à 180 degrés. Celle qui en 2017 estimait que l'annexion de la Crimée n'avait rien de répréhensible a cette fois condamné sans réserve l'opération militaire, appelant même ses eurodéputés à soutenir une résolution pour intensifier l'aide apportée à l'Ukraine et renforcer les sanctions contre la Russie. Seul le très russophile Thierry Mariani s'est abstenu. Et aujourd'hui, le RN va encore un peu plus loin. Interrogé ce matin sur France Info, le président par intérim du parti, Jordan Bardella, accepte de qualifier Vladimir Poutine de dictateur. En marge d'une conférence de presse sur l'éducation, Marine Le Pen embraye.
Il n'y a pas un fléchissement. Il y a des gens qui évoluent et qui commettent des actions. Et en fonction de leurs actions, on les juge. Il est sûr que la disparition de toute capacité de critique, notamment médiatique, est un élément inquiétant. Et en tout cas est un élément qui éloigne le fonctionnement actuel de la Russie d'un fonctionnement démocratique.
Marine Le Pen qui en faisant ça enfonce encore davantage un coin avec son rival Éric Zemmour, pour qui Vladimir Poutine n'est pas un dictateur mais un démocrate autoritaire. Zemmour est un idéologue incapable d'adapter son discours, soufflent les cadres du RN, espérant profiter du contexte pour consolider l'écart entre eux dans les sondages.
Élodie Faure. La guerre pèse sur la campagne, d'autant plus que le président à l'action est aussi candidat. Emmanuel Macron, pour son premier jour de campagne, a donc usé des deux casquettes. Président sur LCI, il a dénoncé le cynisme du président Poutine. Candidat à son QG de campagne, il a commencé à esquisser les contours de sa campagne devant ses soutiens. Et ce soir, il est donc à Poissy, dans les Yvelines, pour son premier déplacement public de candidat. Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Le président candidat rejoue le grand débat d'après les Gilets jaunes.
Oui, l'exercice lui avait réussi. À l'époque, une salle municipale, des chaises disposées en cercle, Emmanuel Macron au centre, qui aime mettre en scène ce dialogue sans filtre avec les Français. C'est son expression. L'équipe de campagne parle même de conversation libre avec un public, il faut le dire, pas franchement hostile, comme en témoigne l'accueil qu'il vient de recevoir. 300 habitants ont été invités. Ils ont été choisis par le maire de Poissy, l'ex-LR Carl Olive, un ami du chef de l'État. Mais quel que soit le degré de spontanéité de l'échange, c'est bien la première fois que le président descend de son piédestal. Il l'a redit ce matin à son QG de campagne, il le répète ce soir. Pas question d'éluder l'élection.
Je suis candidat depuis quelques jours, dans un contexte qui est un peu particulier. Et donc je serai président durant ces jours et ces semaines autant que je le dois, mais je serai candidat à chaque fois que je le peux.
À l'instant, les deux premières questions portent sur la guerre en Ukraine et ses proches insistent bien, la conversation doit durer 2 heures, pas plus. Emmanuel Macron doit retourner à l'Elysée s'occuper des affaires du monde. La campagne démarre bel et bien. Le sortant devrait en profiter pour distiller quelques éléments de programme sur l'éducation, sur la santé ou le renouveau démocratique. Mais vu le contexte, c'est clair, le président ne laissera pas beaucoup de place aux candidats.
Simon Le Baron avec Benjamin Thuot en direct des Yvelines pour ce premier déplacement de campagne d'Emmanuel Macron. Et on a donc désormais la liste des 12 candidats officiels. Un de plus qu'il y a 5 ans, 4 femmes, 8 hommes, moyenne d'âge 57 ans. Et c'est la troisième campagne pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Tout cela est à retrouver en détail sur franceinter.fr.
Et tout à l'heure aussi, au téléphone sonne, il est 19h15. Hélène est au procès de l'attentat de Saint-Étienne de Rouvray, entre 7 et 14 ans de prison requis contre les trois accusés dans le box.
Procès de l'assassinat du père Hamel il y a près de 6 ans devant la cour d'assises spéciale de Paris. Où vous vous trouvez, Ariane Grissel?
Pendant plus de 3 heures, les deux avocates générales dressent le portrait d'accusés qui, disent-elles, ont fait le choix d'aller vers le groupe État islamique à une période où l'organisation multiplie les attentats en France. Tous trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, une infraction dont l'une des représentantes du ministère public rappelle qu'elle permet de sanctionner le simple fait de s'associer sciemment à des individus qui commettent de tels crimes. Or, pour l'accusation, pas de doute, tous ont été en lien avec les assaillants. Yacine Sebaya, d'abord, qualifié d'apprenti djihadiste, 7 ans de détention requis à l'encontre de ce jeune homme qui a rencontré les terroristes 2 jours avant les faits. Farid Khalil, cousin d'Abdelmalik Petitjean. Ensuite, le ministère public demande 9 ans d'emprisonnement. Il a exalté le terroriste, l'a galvanisé par ses encouragements, juge l'accusation. Et puis Jean-Philippe Steven Jean-Louis, animateur d'une chaîne de propagande, le porte-voix de l'idéologie mortifère de l'État islamique. Selon les avocats généraux, 14 ans de détention requis à son encontre. En toile de fond de ces réquisitions, le passage du monde de la propagande en ligne à la concrétisation de projets terroristes, selon les représentants du ministère public. Passage franchi par les deux terroristes, 2 entités chargées de haine, dit l'une d'elles, qui n'attendaient que l'étincelle de la rencontre pour exploser.
Ariane Grissel en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. L'État français n'est pas un assassin. Les mots du nouveau préfet de Corse en réponse au slogan vu dans les manifestations sur l'île depuis l'agression d'Ivan Colonna par un autre détenu la semaine dernière. De violents incidents ont éclaté hier dans la ville universitaire de Corte. En bref, encore, Sanofi va injecter 1,5 milliard d'euros en France pour développer la technologie novatrice de l'ARN messager qui a servi à mettre au point des vaccins contre le Covid. L'investissement débouchera sur plus de 300 créations de postes autour de Lyon. Et au rayon e-commerce, voici une nouveauté surveillée de très près par les villes parce que les riverains s'en plaignent beaucoup. Ce sont les dark stores. Entrepôts installés au cœur des grandes villes qui servent à livrer de petites courses en moins de 15 minutes. Ils poussent comme des champignons à Paris, à Lyon. Il y en a déjà plus de 70 dans la capitale. Les riverains s'agacent et les élus commencent à réagir, comme à Paris, qui organisait aujourd'hui une réunion avec les principaux opérateurs du secteur. Reportage signé Agnès Soubiran.
C'est une petite rue à sens unique du 17e arrondissement, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'une porte étroite et à proximité. Une dizaine de livreurs à vélo ou en scooter attendent les commandes. Samira habite juste en face.
Des nuisances de 7h du matin jusqu'à 2h du matin, des passages de scooter toutes les 20-30 secondes et des attroupements, des altercations, des gens qui ne veulent pas bouger parce qu'ils sont garés sur des places de parking et plus de droits, plus de respect, plus rien.
Excédés, une 60aine de riverains se sont regroupés pour signer une pétition et alerter la mairie. Des situations que l'on retrouve dans presque tous les arrondissements. Emmanuel Grégoire, premier adjoint en charge de l'urbanisme, plaide donc pour un renforcement des pouvoirs des collectivités.
Entre le moment où on découvre un phénomène, le moment où on se dit tiens, faudrait une loi, le moment où on vote la loi et le moment où on met les textes d'application de la loi, il s'est passé 3 ou 4 ans. Et généralement, la régulation est venue plus vite par le marché que par les pouvoirs publics. Et ça, c'est pas normal.
Une lenteur qui exaspère Charles, qui habite le quartier depuis 40 ans.
Si vous regardez en fait là en haut, quand vous levez la tête, vous voyez qu'il y a beaucoup de panneaux à vendre, à louer. Il y a déjà des gens qui sont partis là-bas au 2-4, juste à côté, en citant explicitement Cajou comme un problème. Et ça a vraiment complètement changé la rue.
Des opérateurs donc convoqués aujourd'hui par la mairie de Paris, alors qu'une douzaine de procédures sont déjà engagées.
Un reportage signé Agnès Soubiran. Et puis la France est 5e au tableau des médailles des Jeux paralympiques de Pékin. 2 nouveaux titres aujourd'hui en or. Arthur Bauchet, champion olympique de super combiné en ski alpin. Et Cécile Hernandez en snowboard cross.
Voilà, bah les bonnes nouvelles, ça fait aussi du bien. Hélène Philly, merci beaucoup. Bien sûr, à demain, nous, on reste ensemble comme chaque soir. Dans un tout petit instant, c'est le téléphone sonne et cette drôle de campagne électorale qui commence. Ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Élodie Calac, retour de la pluie à l'ouest demain.
Oui, on a une perturbation qui gagnera l'ouest, en effet poussée par un vent de sud. Elle donnera des averses sur l'ouest de la Bretagne et de l'Aquitaine le matin. Il pleuvra de la Bretagne au sud-ouest l'après-midi. Un petit peu de neige vers 1200 mètres sur les Pyrénées. Ça deviendra nuageux aussi du Cotentin vers l'ouest du Massif central et le Roussillon. Sur le Languedoc et sur les Cévennes, là, un vent de sud-est apportera beaucoup de nuages, un petit peu de pluie, quelques flocons vers 900 mètres l'après-midi. Et puis ailleurs, le soleil sera encore au rendez-vous. Il y aura toujours un petit peu plus de nuages vers la région PACA et le sud de la Corse. Parfois une averse, voire quelques flocons vers 800 mètres.
Et sinon, encore froid le matin, mais plus doux l'après-midi, Élodie.
Oui, souvent moins 6 à 0 degrés le matin, 0 à 6 en bord de mer et sur le sud-ouest. Et puis l'après-midi, belle hausse, 10 degrés à Nancy, 11 à Lille et Saint-Brieuc, 14 à Caen, Paris, Lyon, Bordeaux, 15 degrés à Toulouse et à Marseille, 16 à Bourges et 18 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.